le grain de sable. Pensée globale. Une mission proposée par l'association Atacrone. Agir local. Le grain de sable.
Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de l'émission Grain de Sable sur Radio Canu. Nous avons décidé aujourd'hui de vous parler de la souffrance au travail, un des mots les plus importants de notre du moment de notre société. Nous avons décidé de aborder le sujet dans le cadre de deux émissions, donc l'émission d'aujourd'hui et l'émission du 20 février, donc d'ici 15 jours, avec deux invités. Donc le premier invité est Jean-Luc Sipierre. Bonjour.
Bonjour.
Donc vous allez aborder donc la première partie de ce cycle sur la souffrance au travail et nous parler à partir de votre pratique d'expert CHSCT et de militant altermondialiste. Vous allez aborder la question de la souffrance au travail à la fois sous le plan macro et aussi au plus près du terrain, en lien avec la mondialisation libérale et la résistance des salariés. Et puis, dans 15 jours, nous accueillerons Bernard Boucher, qui est militant au sein de Solidaires Rhône, et qui prolongera en fait l'émission en développant le sujet plutôt sur le côté des actions collectives possibles et sur comment on organise une résistance au sein des organisations syndicales. Alors, vous êtes expert CHSCT pour les CHSCT, comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un CHSCT ?
C'est une institution, une instance, représentative du personnel. Comme le comité d'établissement, le CE en est une. On connaît généralement beaucoup plus le CE qui... Donc, est une instance dans laquelle siègent des représentants des salariés élus dans les élections professionnelles et qui s'occupe des questions économiques. Le CHSCT, donc comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, eh bien, c'est le même type d'instance et elle, ses prérogatives, c'est le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Et c'est une instance qui est montée en puissance ces 10 dernières années, alors qu'il y a encore une dizaine d'années, elle était plutôt délaissée, même par la plupart des organisations syndicales. Elle est montée en puissance et il s'avère qu'aujourd'hui, beaucoup disent qu'elle est sans doute le seul contre-pouvoir significatif à l'intérieur de l'entreprise, notamment parce que le Code du travail lui donne un certain nombre d'outils, parmi lesquels la possibilité de recourir à l'expertise externe.
Et des CHSCT, il y en a dans toutes les entreprises ou ça concerne que certaines entreprises ?
Alors malheureusement, il n'y en a pas dans toutes les entreprises. Il n'y en a que dans les entreprises de plus de 50 salariés. Et par contre, tout secteur confondu, sauf la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale. Parce que bien évidemment, comme vos auditeurs doivent le savoir, l'État s'applique pas toujours à lui-même les contraintes qui l'appliquent aux autres, les contraintes réglementaires. Et si il existe des CHSCT dans la fonction publique hospitalière, il n'en existe pas encore, au moins doté de toutes les compétences qu'ont les CHSCT ailleurs, dans la fonction publique d'État et dans la fonction publique territoriale. Mais nous ne désespérons pas que les choses changent à ce sujet.
D'accord. Donc si j'ai bien compris, c'est une instance représentative du personnel. Hein,
c'est ça.
Et concrètement, du coup, qui est-ce qui siège ? Est-ce que c'est paritaire ? Est-ce que c'est... comment ça se déroule concrètement ?
Alors, ils siègent des représentants du personnel, c'est-à-dire généralement des syndicalistes, pas obligatoirement, mais en tout cas des gens qui sont désignés par les élus du CE, donc qui sont eux élus par leur pair. Hein. Ouais. Les salariés d'une entreprise votent sur des listes pour élire leurs représentants. Ces représentants vont siéger au prorata du résultat des élections dans le CE et eux, donc au prorata de du poids qu'ils ont dans le CE, vont désigner les représentants du personnel au CHSCT. Donc, à l'intérieur du CHSCT, on va avoir, selon la taille de l'entreprise, 3, 4, 5 ou plus de représentants du personnel. Et puis, on va avoir en face un représentant de la direction. C'est souvent le le boss. Et sur un certain nombre de questions, et notamment sur la plupart des questions, lors des délibérations, lorsqu'il y a vote, le représentant de la direction ne vote pas. Le représentant de la direction dans un CHSCT vote sur les questions de fonctionnement de l'instance, mais par exemple sur la décision de recourir à une expertise externe, notamment, le président ne vote pas. Donc le représentant de la direction ne vote pas. Donc c'est donc une instance qui a un caractère un peu particulier, ou peut s'exercer dans les limites, bien évidemment, que lui donne le Code du travail, un contre-pouvoir significatif.
D'accord, ouais, je fais le lien avec ce que tu nous disais tout à l'heure. Là, finalement, on est habitué à des instances où les patrons ont une place très importante. Là, en définitive, c'est véritablement que représenté par les représentants du personnel.
Alors, les patrons siègent, mais avec, dans un certain nombre de cas, sur un certain nombre de délibérations, l'impossibilité de... la nécessité, enfin, il s'impose à eux le vote des représentants du personnel. Ce qui ne veut pas dire, je modère mon propos, que... on fait la pluie et le beau temps dans ces CHSCT. Le droit de propriété reste encore le droit divin.
Alors, quel est le rôle du CHSCT par rapport à la souffrance au travail, plus particulièrement?
Les élus du comité d'hygiène et sécurité de conditions de travail, si, dans le cadre de leur mission, s'ils considèrent que dans tel ou tel service, tel ou tel atelier, voire dans l'entreprise entière, il y a des situations de souffrance, ils doivent s'en saisir et ils ont pour intervenir différents outils que le code met à leur disposition. Donc l'essentiel, je pense, que ce sera un de ces outils quant à leur existence et à leur utilisation. C'est quelque chose qui sera abordé par Bernard la semaine prochaine. Donc moi, je vous parlerai plus de ce qui est mon quotidien professionnel, c'est-à-dire de l'expertise CHSCT, à savoir que dans un CHSCT, les élus ont la possibilité dans deux cas de figure, soit parce que ils considèrent, pour diverses raisons, notamment parce qu'ils sont allés voir ça de plus près, qu'il y a certains de leurs collègues qui sont en souffrance. Dans ce cas-là, ils ont la possibilité de déclencher une expertise externe, avec comme seule réserve, comme seule condition, qu'ils choisissent leur expert dans une liste d'experts agréés par le ministère du Travail. Donc nous sommes donc à des experts qui sommes indépendants, mais néanmoins très surveillés par le ministère. On est dans une forme de délégation de service public, mais on est indépendant. Et le deuxième cas pour lequel les salariés, en tout cas leurs représentants au CHSCT, peuvent recourir à une expertise, c'est le cas dite l'expertise projet, c'est-à-dire lorsque la direction met en place un projet qui bouleverse ou qui change les conditions de travail, quasiment tous les projets, elle est tenue par le code de consulter les instances CE-CHSCT, et au moment où il est consulté sur un projet, le CHSCT a la possibilité de dire, pour rendre mon avis, j'ai besoin d'une expertise externe, donc je désigne un expert. Et donc c'est comme ça que nous sommes les uns et les autres désignés, et cette décision d'expertise et ce choix de l'expert s'impose à l'employeur, qui n'a comme possibilité, s'il veut la contester sur le fond ou la forme, que d'aller devant le juge judiciaire, donc d'assigner son CHSCT au tribunal pour dire « je considère que l'expertise n'est pas justifiée, je considère que le périmètre sur lequel vous voulez faire l'expertise n'est pas le bon » ou que l'expert est trop cher, et puis c'est le juge qui dira, oui, monsieur le patron, vous avez raison, ou non, monsieur le patron, vous n'avez pas raison, c'est votre CH qui a raison, et vous allez faire cette expertise aux conditions auxquelles on vous demande de la faire.
Et les employeurs contestent souvent ces désignations d'expertise et d'experts, ou...
De plus en plus, cherchant à faire une jurisprudence, en fait, à constituer une jurisprudence sur laquelle ils pourront s'appuyer sur les grosses entreprises et les grands groupes. Je pense par exemple à La Poste, il y a à l'évidence des dispositions qui sont prises pour donner consigne à l'ensemble des unités réparties sur le terrain d'une contestation systématique, en tous les cas, que ça remonte jusque à la direction nationale pour décider si on conteste ou pas. Les directions contesteront plus facilement les expertises de risque grave, donc celles qui concernent la souffrance au travail, que celles qui concernent les projets, parce qu'il est plus difficile d'argumenter sur l'inexistence d'un projet quand il y a un projet, qu'il est difficile d'argumenter sur l'inexistence de la souffrance. patrons, les directions, rétorquant souvent aux représentants du personnel qui considèrent qu'il y a souffrance, que s'il y a souffrance, ce n'est pas lié à l'organisation du travail, que c'est lié aux prédispositions intrinsèques des salariés à souffrir.
De plus en plus de salariés ont donc des prédispositions intrinsèques à la souffrance, alors.
Je pense que les patrons ont pensé qu'ils en avaient toujours de tout temps. Mais en tout cas, on en parle de plus en plus, effectivement. Ils ont de plus en plus souvent l'occasion de sortir ce genre d'argument parce que les questions de souffrance au travail, comme vous l'avez dit dans votre introduction, sont de plus en plus médiatisées, arrivent dans l'espace public un peu, commencent à préoccuper au-delà de l'entreprise.
Et c'est tant mieux. Et vous, quand vous êtes désigné en qualité d'expert, quel est votre objectif? Comment intervenez-vous auprès des salariés? Et comment recueillez-vous la parole de ces salariés?
Alors, on s'appelle expert parce que le code nous désigne comme ça. Mais on n'aime pas bien ce nom, quoi. Parce que les experts du travail, c'est les salariés eux-mêmes, c'est ceux qui le font. Nous, on a une expertise sur l'analyse du travail. Donc notre vocation, c'est d'aller au plus près du travail, dans le détail, pour montrer ce qu'est le travail et ce qu'il fait aux uns et aux autres, dans les conditions dans lesquelles on contraint les uns et les autres à l'exercer. Et notre outil premier, enfin on a deux outils. Le premier, c'est l'entretien avec les salariés, donc aller dans un entretien individuel ou collectif, donc avec plusieurs salariés ou avec un seul, comprendre, interroger pour comprendre ce qu'est le travail, comment il se réalise, dans quelles conditions, qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qui le rend impossible, qu'est-ce qui le facilite, etc. Et puis on a un deuxième outil qui est l'observation au poste de travail. C'est-à-dire souvent à l'issue d'un entretien, on veut aller voir comment ça se passe et donc si le salarié est d'accord, on va voir comment ça se passe au plus près et on va faire ensuite ce qu'on appelle de l'entretien situé, c'est-à-dire après avoir observé, on va interroger le salarié, dire mais en fait tu nous as dit que tu faisais comme ça, mais là tu fais comme ça, pourquoi? Et donc s'engage une discussion où on va dans le détail. Et c'est en... Je pense que l'expertise c'est déjà un exercice de légitimation de la parole des salariés, sur laquelle on construit un regard sur le travail, qui est un regard décalé, puisque nous on est extérieur, que forcément le travailleur lui-même ne peut pas avoir, mais dans lequel il se reconnaît. En tout cas, moi, je ne me souviens pas d'une expertise dont on ne soit pas sorti sans qu'une majorité des salariés nous dise ce que vous avez écrit, puisqu'on écrit un rapport à la fin. Ça correspond à ce qu'on vit, à ce qu'on fait, à la façon dont on fait le travail.
J'ai l'impression que concrètement, ce qui fait ça, c'est que grâce à cette approche, j'allais dire presque terre-à-terre, on pourrait dire, en tout cas très concrète, très pragmatique, on arrive à toucher au concret plutôt qu'à rester dans... J'imagine que le discours, avant d'aller vraiment dans le concret comme ça, c'est on est dans des généralités, des ressentis, et là on arrive à toucher du doigt le concret, dont peut-être le salarié lui-même n'avait pas forcément conscience avant cet échange.
Oui, si vous interrogez un salarié comme ça à brûle pour point sur ce qu'est son travail, qu'est-ce qu'il va vous répondre? Il va vous répondre en vous récitant quasiment ce qui est écrit dans sa fiche de poste, dans sa prescription, dans ce qu'on lui demande de faire. Et puis, si vous creusez, si vous allez plus loin, et notamment si vous observez, mais il va vous répondre ce qu'on a, il va témoigner de ce que nous appelons le travail réel, c'est-à-dire la façon dont effectivement le travail est fait, jusque dans le détail. Et on sait très bien que aucun, ne fait le travail pour parvenir à l'objectif qui s'est fixé de la façon dont on lui a demandé de le faire. Parce que s'il fait ça, c'est la grève du zèle. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, entre ce travail prescrit et ce travail réel, eh ben, les salariés, ils déploient quoi? Ils déploient leur intelligence, leur sensibilité, leur subjectivité, leur inventivité, leur mauvaise humeur de temps en temps. Enfin, voilà, c'est eux, et puis c'est l'individu qui s'engage, individuellement et collectivement, pour faire en sorte que le travail se fasse, et puis se fasse selon quelle exigence de qualité, selon l'exigence de qualité que le salarié porte en lui, qu'il débat collectivement, etc. Et ça n'a rien à voir avec le travail prescrit. Et cet écart entre les deux, qui est souvent un fossé, pour le combler, dans notre jargon en ergonomie, on dit le salarié, c'est l'activité du salarié qui comble ce fossé entre ce qu'on lui demande de faire et la façon dont il doit s'y prendre pour le faire réellement. Et ça, l'activité, c'est l'engagement de tout l'individu, de son histoire, de sa sensibilité, de son intelligence, de ses apprentissages, et un engagement collectif, individuel et collectif, parce qu'il y a aussi la notion d'un engagement collectif dans le travail. Même si cette dimension est mise à mal par les organisations de travail, de plus en plus mise à mal.
Parce que le salarié, finalement, est-ce qu'il dit à son employeur qu'il ne fait pas exactement le travail comme on lui dit de faire et qu'il ne respecte pas vraiment les prescriptions?
Non, il ne le dit pas. C'est pour ça que quand on lui pose la première question, il répond ça. Mais travailler, c'est tricher. Pour tout le monde. Vous ne pouvez pas travailler sans tricher. Si vous vous tenez à la prescription exacte, a fortiori dans ces organisations actuelles qui tentent, prétendent découper le travail en une série d'actes bien et parfaitement identifiés et les enchaîner sur des temps, des délais donnés, tout ça n'a pas de sens, tout ça n'a aucun sens. Le taylorisme n'en avait déjà pas, mais les nouvelles organisations de travail, c'est pire. Donc oui, le salarié, a priori, vous répond, voilà, ça. Mais bien sûr qu'il va pas aller voir son patron et lui dire « je fais pas comme vous avez dit de faire », parce que, enfin si, des fois il lui dit, parce que quand le patron le gonfle trop, il lui dit « écoutez, venez, essayez, puis vous allez voir, ça marche ». Donc ça arrive qu'il lui dise « arrêtez de me gaver avec ça ». De toute façon, vous savez très bien, parce que les patrons le savent, hein. Enfin, je sais pas, peut-être ne savent-ils pas. Mais en tout cas, les responsables le savent que ça peut pas fonctionner comme ça. Mais ce qu'il y a derrière cette incapacité de pouvoir, là où est la souffrance, c'est quand finalement, pour arriver à faire le travail, comme le salarié entend le faire, l'organisation lui met des bâtons dans les roues tels qu'il n'a ni moyens ni capacité. C'est ça qui fait mal, c'est de se dire quand vous rentrez le soir chez vous, putain, j'ai fait un boulot de merde, et ça fait chier de faire un boulot de merde, quoi. Alors qu'on veut faire un boulot, qu'on a envie de faire un boulot de qualité. Et j'ai fait un boulot parce que l'organisation ne me donne pas la possibilité de faire du bon boulot.
Et du coup, ça nous fait la parfaite transition avec la question qu'on se posait. C'est aujourd'hui, en tant qu'expert au plus près du terrain, et le travail aujourd'hui, comment tu le vois? Est-ce que c'est encore un instrument de construction personnelle, d'épanouissement? Ou est-ce que c'est tout simplement l'aliénation, quoi?
Les deux, mon capitaine. Les deux. Puis, je sais pas, bien des gens y ont réfléchi, mais moi, bon, j'aime... Le barbu, Marx, il avait bien mis en évidence dans ses travaux cette dualité complètement irréductible du travail qui est à la fois un support d'émancipation et un facteur d'aliénation. Je pense à, on en reparlera peut-être, à un bonhomme qui s'appelle Alex Honneth, qui est un philosophe, un sociologue allemand, responsable de l'Institut de Francfort, et qui dit, je lis là, « Le travail est un processus de formation dans lequel les sujets peuvent se reconnaître eux-mêmes individuellement et collectivement comme des sujets de l'action, construisant l'histoire, grâce à l'expérience qu'ils font d'eux-mêmes dans le produit de leur travail. » Donc ça, c'est on construit. On s'affronte au monde, à la résistance du monde, on construit. Et en même temps, l'analyse marxiste a bien démontré cette dualité, cette capacité du travail à assujettir, parce que d'abord le contrat de travail, c'est un contrat de subordination, et que le travail peut faire mal dans la chair, peut faire souffrir, peut faire mal dans la tête, peut faire mal, profondément mal. Hein, quand vous pensez que la semaine dernière, il y a un cadre de la Poste et un cadre de Renault qui se sont tous les deux pendus dans leur bureau, on imagine, si ils l'ont fait dans leur bureau, c'est que c'est le travail qui les a amenés là. À quelle souffrance on peut arriver pour nourrir ce geste-là, quoi. Donc le travail, il est motif de souffrance, il est aussi lieu de plaisir. Hein. Il est porteur d'aliénation, il est un moyen de se réaliser soi-même, individuellement, collectivement. Il est les deux à la fois. Il est les deux à la fois. Le problème, c'est qu'il a aujourd'hui tendance à être surtout l'un. Et plus de moins moins en moins souvent, de plus en plus difficilement l'autre. C'est-à-dire que le versant du plaisir,
on a pris un coup.
Il est barré, il est interdit, il est par tout un tas de dispositifs liés à ces nouvelles organisations de travail, sur lesquelles, je pense, on va aussi échanger plus tard. Mais donc voilà, dualité du travail, c'est comme ça. Donc nous l'ignorons pas. Je suis pas en train d'expliquer qu'on est forcément heureux au travail, mais je pense que le travail est aussi un lieu d'émancipation sociale. On conquiert des droits, on se bat pour les conserver, on existe individuellement et collectivement, même si de temps en temps on en paye le prix de façon extrêmement douloureuse.
Moi, je voulais juste revenir, avant d'avancer sur le sujet, quand vous faites vos expertises, vous interrogez aussi l'équipe dirigeante.
Oui, oui.
Et donc, vous recueillez pas seulement la parole des salariés, mais aussi leur parole. Et comment ça se passe? Qu'est-ce qu'ils disent, eux, quand vous les interrogez?
Alors, dans les dirigeants, il y en a beaucoup qui sont aussi des salariés. On va faire des catégories pratiques. Il y a l'encadrement de proximité, et puis il y a le haut encadrement. On va régler rapidement la question du haut encadrement. Il est tellement haut que souvent, et la plupart du temps, il ne sait pas ce que c'est que le travail. Et c'est une des caractéristiques des dernières, donc, de l'évolution des organisations du travail, c'est que de mettre là où Taylor mettait des ingénieurs, donc des gens qui connaissaient un peu le travail, de mettre des gestionnaires qui sortent des écoles, des business schools et qui ne connaissent rien au travail. Et puis il y a un encadrement de proximité. Et ceux-là, c'est souvent ceux qui souffrent le plus, pour lesquels c'est le plus difficile, parce que ces gens souvent aiment endurants, ils connaissent le travail, et puis sont en contact avec ceux qui sont au front, ceux qui font le travail, les salariés du premier rang. Et en même temps, les injonctions de la direction leur tombent sur la tronche en cascade, et à eux de se démerder avec ça. Donc ça, on l'entend, quoi, dans les entretiens et les observations, dans le travail qu'on fait en expertise CHSCT, position extrêmement inconfortable dans le meilleur des cas, douloureuse bien souvent de l'encadrement de proximité, on l'entend. Ce qui ne veut pas dire, ce qui n'exclut pas le fait que les salariés, ceux qui sont au front, les ouvriers, les employés, ne souffrent pas. Au contraire, mais malgré ça, tout le monde, dans ces deux derniers étages de la pyramide, tout le monde Et malmené, extrêmement malmené. Et puis après, il y a des catégories, du point de vue sociologique, plus malmenées que d'autres. Je pense aux femmes, quoi, par exemple.
nous sommes de retour sur l'émission Grain de Sable. On parlait de l'évolution de l'organisation du travail au sein des sociétés, des entreprises. Alors, à quoi elle est due, selon vous, cette modification, cette évolution ?
Ben, je crois qu'elle est, parallèle à l'évolution du capitalisme, en tout cas sur la dernière période, c'est-à-dire au passage vers à la financiarisation de l'économie. Avec les exigences que porte cette évolution du capitalisme en matière de dégagement de valeur, hein, de production de valeur, entre guillemets, c'est comme ça qu'ils appellent ça. C'est-à-dire, il faut dégager de la richesse monétaire pour rémunérer dans le privé les actionnaires de l'entreprise, dans le public les détenteurs de titres de la dette, hein, c'est exactement la même mécanique, hein. Et donc, comme il n'y a qu'une seule chose qui produit de la richesse, le travail, qu'on puisse monétiser derrière, ben donc on va étrangler, on va pressurer un peu plus le travail pour dégager une valeur plus conséquente. Alors c'est ce que avait déjà fait Taylor puis Ford à sa suite, et là l'entreprise est beaucoup plus vicieuse depuis les années 70-80, quoi. Parce qu'elle s'appuie sur un discours qui vise à laisser penser que c'est l'inverse qui se passerait, quoi. Du style, ce discours sur lequel se construit le toyotisme, par exemple, hein, donc ça vient de l'escrotomie japonaise, d'où est dérivé le lean management, lean production, hein, qui sévit aujourd'hui partout, y compris dans le service public. C'est sur un discours qui dit, on va mettre à contribution la responsabilité de chaque salarié, on va inverser la question. C'est plus le chef qui va décider, c'est le marché qui décide. Et donc, on va mettre le salarié, qu'il fabrique une voiture, qu'il vende du courrier, enfin, qu'il soit au guichet de la poste, peu importe, à être face au marché, entre guillemets. Alors, c'est le client, l'usager, le patient, etc. Charge à lui de faire valoir son expérience, son intelligence, d'être en autonomie pour répondre au mieux, au plus près, à la demande du marché. Mais là où on se fout de notre gueule, c'est qu'en fait, on met en même temps en place tous les dispositifs pour priver chacun, chacune de cette autonomie. C'est-à-dire qu'on cadre de la façon la plus drastique qu'on puisse en imaginer, et notamment par le biais de ratios qui dégringolent d'en haut, qui cadre l'activité, qui la mesure qui la cadre et qui l'encadre, des ratios du quantitatifs qui descendent des marchés financiers et qui interdisent de fait tout recours à l'autonomie. Donc quand ces systèmes se mettent en place dans les années 80-90, compte tenu qu'ils s'appuient sur ce discours de l'appel à la sensibilité, à l'intelligence, à la responsabilité, tout le monde, les chercheurs notamment, se disent, mais ça va produire de la santé. Parce que qu'est-ce qui produit la santé dans l'engagement ? C'est l'engagement au travail sur cette base-là. Donc on s'attend à avoir de la santé. Et patatrac, qu'est-ce qu'on voit tout de suite dans les années qui suivent, au travers des grandes enquêtes, aux États-Unis, en Europe ? On voit l'inverse. On voit une dégradation violente de la santé physique et mentale, qui révèle bien qu'en fait, tout ça est un subterfuge, et qu'aujourd'hui, on a le taylorisme plus. C'est-à-dire, on a la même exigence, la même prétention à découper le travail et à le calibrer dans le temps. Quand vous pensez qu'à la poste, aujourd'hui, il y a des outils qui se déploient sur la base de calcul qui découpent les actes des postiers, notamment des facteurs, dans des temps qui sont de l'ordre du centième de seconde. Des fois, dans des temps qui sont inférieurs on a pu remarquer en expertise, dans des temps qui sont, il est, pour faire tel geste, il est alloué au facteur, à l'agent qui le fait, un temps qui est inférieur au temps de réponse entre le cerveau et le muscle, hein. Donc voilà, grosso dit de façon très rapide, ce qui caractérise l'évolution. Et alors pourquoi on pourrait dire, mais parce qu'on peut faire tous les procès aux capitalistes, aux détenteurs du capital, mais en général ils sont pas cons, quoi. Pourquoi est-ce qu'ils procèdent comme ça? Parce que c'est contre-productif. Bon, moi je pense que c'est parce que c'est une démarche vraiment extrêmement court-termiste. Ce qui compte, c'est de gratter tout de suite et tout de suite là, immédiatement, hein, c'est ça l'impératif sur les marchés financiers, donc on va pas voir plus loin. Et puis deuxièmement, il faut déposséder le travailleur, faut lui interdire de faire autorité sur son travail. Parce que, réfléchissons, chacun dans notre boulot, dès que c'est une pulsion qui revient toujours. On veut investir dans notre travail, on veut produire de la qualité, donc on veut être un expert de notre travail. Donc il y a cette pulsion permanente qui nous habite tous. Et ça, c'est pas possible, parce que si on a un peu de marge de manœuvre pour faire autorité sur notre travail, on fait tout voler en éclats, quoi. Donc il y a en face de nous un système qui casse, alors qui casse les collectifs, qui casse les individus, qui les enferme dans ces organisations du travail totalement ubuesques, totalement, enfin c'est pire que kafkaïen, pour éviter que on ait la moindre latitude. Le moindre moment pour reprendre la main et refaire autorité sur notre travail et faire autorité sur notre... Donc c'est ce combat permanent entre ces organisations poussées par ces logiques-là et les salariés qui ne lâchent rien pour la... Alors le problème, c'est à quel prix, quoi. Et pour beaucoup d'entre eux, au prix de leur santé. Il ne lâche rien.
Le système dont tu parlais, donc on te demande une réponse inférieure à la réponse neurologique de ton cerveau, ça ne peut être que source d'erreurs et de dysfonctionnements, alors que normalement c'est contre-productif par rapport à l'efficacité. Et j'imagine que ça retombe sur le premier de la file, donc le salarié, enfin l'ouvrier, ça peut être d'ailleurs aussi un cadre. Tu me parlais des modes de faire son travail, on rentre tout à fait là-dedans, des modes de travail qu'on nous impose et qui ne nous permettent pas d'être efficaces tel qu'on pourrait le vouloir.
Ça fonctionne pas, mais je disais les prescripteurs quelque part s'en moquent parce que l'exigence première, ils s'en moquent pour deux raisons. Leur exigence première, elle est que il faut peu importe le travail. La première chose, c'est que le travail se fait quand même et toujours. Donc la richesse se produit quand même. Et donc il y a toujours du pognon à prendre et à concentrer entre les mains de quelques-uns et toujours plus. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils s'en tapent finalement. Hein, parce que même quand vous empêchez le salarié de bosser, ben il arrive quand même à bosser, il arrive quand même à produire de la richesse, il arrive quand même, mais à quel prix? Donc c'est pour ça que ces gens-là s'en tapent. Ils voient pas plus loin. Alors effectivement, quand ils auront décimé par la maladie, qu'elle soit mentale ou physique, la quasi-totalité des travailleurs potentiels de la planète, mais bon. On raisonne pas comme ça, quoi. On raisonne parce que, voilà, dans le plus extrême des court-termismes.
Alors, tu dis à quel prix les travailleurs continuent à travailler. Effectivement, c'est quoi la souffrance au travail et quelles sont les conséquences sur les salariés? Parce qu'on parle souvent médiatiquement du suicide, des burn-out, du harcèlement moral, mais le prix de cette nouvelle organisation du travail, ce n'est pas que ça.
Bien sûr, ça c'est la pointe émergée de l'iceberg, notamment les suicides, c'est dramatique, loin de moi l'idée de... Mais c'est loin de résumer la question, loin. C'est tout un tas de pathologies. Alors, dans le versant des pathologies physiques, ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques, c'est avoir mal au coude, avoir mal au poignet, syndrome du canal carpien, avoir mal au dos, avoir des lombalgies. Les organismes qui travaillent, qui suivent l'évolution de ces pathologies, disent qu'aujourd'hui on est en situation d'épidémie. Épidémie sur ces. Tant il y a de travailleurs qui sont affectés par ces pathologies. Et c'est important, quoi. Au point, et puis ça continue d'évoluer. Par exemple, concernant le syndrome du canal carpien, qui est ce trouble musculo-squelettique lié au poignet, au point que les salariés qui en sont atteints, qui sont affectés par cette pathologie, vont aller se faire opérer pendant leurs vacances. Parce qu'ils ont peur, s'ils déclenchent le processus visant à faire reconnaître comme une maladie professionnelle, que ça puisse avoir des conséquences sur leur emploi. Parce qu'il y a un aspect dont il faudra parler, c'est la précarisation, quoi. Et notamment la précarisation subjective. C'est la pression exercée en permanence pour vous dire que demain, si vous n'êtes pas content, c'est la porte. Il y en a 100 qui attendent à la porte. Et puis après, il y a toute une série d'autres pathologies d'ordre physique. Alors, c'est des troubles digestifs, c'est des troubles cardiovasculaires, c'est des troubles, c'est des problèmes d'addiction, que ce soit tabac, alcool et drogue. c'est des troubles neurologiques. Ça peut commencer par des choses qui peuvent paraître banales. Hein. On commence par mal dormir, on mange mal, on a des problèmes dermatologiques, ça gratte, et puis après ça devient... Et ça, c'est les tableaux que je vous décris sont fréquents, hein, les tableaux cliniques que je vous décris. Il y a plein de gens qui... Et puis, après, il y a les décompensations possibles, il y a les dépressions. Et puis, les dépressions longues, les dépressions fortes, et puis la désocialisation, etc. Et l'ensemble du cortège de symptômes qui accompagnent ces pathologies. Donc le tableau est extrêmement large. Et aujourd'hui, la difficulté est effectivement que les outils pour mesurer effectivement la prégnance de ces pathologies, ils sont mis à mal parce que il faut que ça soit qualifié de maladie professionnelle. Et pour des raisons comme celles que j'évoquais relatives au syndrome du canal carpien tout à l'heure, dans l'histoire du syndrome du canal carpien, ou pour d'autres raisons, presque toutes liées à la précarisation et à la peur de perdre son emploi, les uns et les autres ne font pas les démarches pour faire reconnaître ces maladies comme maladies professionnelles. Donc l'ensemble du monde de la recherche sait que les chiffres que nous avons sous-estiment tous de façon extrêmement... significative la réalité de ces pathologies. Donc quand on parle de souffrance au travail, on parle de gens qui sont malades, massivement, avec des pathologies qui ont un caractère épidémique pour certaines. Quoi.
Du coup, ça donne un peu l'impression que nous, les salariés, on est les artisans de notre propre malheur, parce que à l'instant tu disais, quand on commence à avoir des pathologies vraisemblablement liées au travail, on cherche un peu à planquer ça de peur de perdre sa place. Et puis juste avant, tu nous expliquais que finalement, ce qui permet au système en place de continuer, c'est que de toute façon, le travail sera fait. On dirait que c'est parce qu'on n'arrive pas à se désengager de ce travail, même quand on voudrait nous faire de la merde, que le système peut continuer à exister comme ça, quoi.
C'est ça aussi tout le caractère contradictoire, la nature contradictoire du travail, c'est que bon, en même temps, il produit ce que j'évoque, mais l'émission, le thème d'émission, c'est la souffrance au travail. Mais en même temps, on s'y construit, et que ceux qui sont aujourd'hui... Qu'est-ce qui, aujourd'hui, est la plus grande cause de souffrance? Enfin, je vais pas la poser comme ça, la question. Dans quel état se retrouvent les gens que vous privez de travail, du droit au travail? Dans quel état, en termes de santé, se retrouvent-ils? Donc, voilà, nous sommes à la fois dans cette situation où le travail fait mal, mais en même temps, on se construit au travail. Alors, ce que je donne à voir dans les échanges que nous avons là, c'est le versant de la souffrance, quoi. Mais bien évidemment, encore aujourd'hui, dans le travail, il y a un tas de gens, parce que il y a plein de secteurs préservés, il y a des niches, parce que il y a des collectifs de travail forts qui arrivent à résister, il y a aussi plein de gens qui tiennent. Et puis, qui de temps en temps ont un peu les glandes et en ont gros sur la patate, mais globalement, sont contents, s'engagent, construisent leur santé au travail. Il y a aussi ça, quoi. Heureusement que tous, on n'est pas légion de gens en train de sombrer dans la pathologie au travail. Il y a les deux. Mais c'est inadmissible d'imaginer que dans des sociétés qui sont censées progresser, c'est ce qu'on nous dit, moi c'est ce que je crois en plus, on voit des gens devoir payer un tribut, de plus en plus de gens devoir payer un tribut en termes de santé au travail, et notamment en termes de santé mentale, mais pas seulement.
Hein. Là, tu parlais des gens qui tiennent, enfin qui souffrent, mais qui y restent, mais il y en a qui doivent finir aussi par être tellement malades qui décrochent et qui doivent arrêter.
Ben oui, alors là, il y a ce qu'on appelle le recours à l'inaptitude, il y a des gens qui ont... Des fois, c'est même pas eux qui le choisissent. Et puis, il y a des gens qui arrêtent parce qu'ils peuvent plus, qui sont en arrêt de très longue durée, puis qui finissent par être inaptes au travail. Oui, et puis il y a des gens qui, effectivement, il y a toute une catégorie de travailleurs qui n'arrivent pas à s'en relever.
Et puis, ça veut dire qu'on quitte aussi un collectif aussi quand on se retrouve en deux.
Alors, en plus, alors tant est-il que vous en ayez un sur le lieu du travail, parce que un des impacts, une des conséquences de ces nouvelles organisations et de la précarisation tout court et de la précarisation subjective, c'est de malmener, voire de détruire ces collectifs, hein, dans lesquels se construisent à la fois ce qu'on appelle les règles du métier, les règles de l'art, et se construisent des résistances collectives et des conditions d'engagement, d'engagement dans le travail, d'un engagement producteur de santé. Donc, on bouge les gens dans tous les sens, on leur change d'organisation, mais tous les jours, quasiment. Ils n'ont pas fini de lire le texte relatif à la dernière réorganisation, d'en comprendre les tenants et les aboutissants, que déjà on en met une autre en place. Et ça, c'est vrai dans le secteur privé comme dans le secteur public, dans le service comme dans... Donc voilà, ça contribue à précariser, ça contribue à faire exploser les collectifs, on prend les gens, on les change, on les met... Et donc, oui... La question des collectifs est extrêmement importante. Ils sont un point d'appui pour refaire autorité sur son travail, c'est-à-dire, ça c'est mon point de vue, retrouver un chemin vers la santé en imposant les conditions auxquelles on entend faire un travail de qualité.
Justement, parlons un peu des normes de justice démocratique. Qu'elles sont et quelle est leur place dans l'entreprise et quelle est l'incidence sur justement les possibilités de résistance des salariés face à la souffrance au travail.
Alors, c'est tout à l'heure, je parlais d'Axel Honneth. Donc c'est lui qui a commis pas mal de travaux intéressants là-dessus, sur ces normes de justice démocratique. Donc je disais qu'il était le boss de l'école de Francfort, donc c'est quand même... C'est un centre d'études sociales créé au début du XXe siècle, dans lequel ont défilé des gens comme Horkheimer, Habermas, Marcuse, j'en passe, et les meilleurs. Donc ça a produit du lourd. Et c'est lui qui parle, le premier, je crois, de cette qui définit comme ça les normes de justice démocratique, c'est-à-dire cette norme qui tend à s'imposer dans un certain nombre de sociétés, dont la nôtre, visant à dire que il faut développer la démocratie. Alors ça se traduit par tout un tas de choses dont d'aucuns pourront penser que ce sont souvent des simulacres de démocratie. Mais bref, dans la cité, on voit de plus en plus s'imposer ces normes-là. Et ce qu'on constate, c'est que ces normes de justice démocratique, elles s'arrêtent à la porte de l'entreprise. C'est-à-dire que dans l'entreprise, ce qui aujourd'hui est encore la norme, c'est le droit de propriété et c'est la subordination du salarié à son employeur, c'est-à-dire l'incapacité de disposer librement à il est pied et poings liés à la prescription de son employeur pendant son temps de travail. Malgré le discours que j'évoquais tout à l'heure sur le recours à l'autonomie, la responsabilité, etc. Ça, c'est à l'évidence d'abord une aberration. Pourquoi ? Est-ce que ce qui vaut dans l'ensemble de la société, ou ce qu'on entend, ce qu'on prétend devoir faire norme dans l'ensemble de la société n'a pas lieu d'exister dans l'entreprise, alors que ces mêmes entreprises, en tout cas certaines d'entre elles, se parent du nom d'entreprise citoyenne, quand c'est pas des banques citoyennes, puisque maintenant on a une banque citoyenne. Et puis, ce que ça nous révèle, ça, c'est que c'est la question de l'autonomie, quoi. Et donc, c'est ça, quand je dis ce mouvement, cette pulsion incontrôlable du travailleur de vouloir produire comme il l'entend son service ou son produit, de le réfléchir individuellement et collectivement, d'avoir une conception de la qualité qui est chevillée au corps et qui est diamétralement opposée à celle du prescripteur, elle présuppose un minimum de liberté qui n'existe pas dans les organisations du travail, qui n'existe pas dans la prescription, mais que les encore une fois, c'est ça aussi la contradiction, c'est que les travailleurs doivent se saisir pour faire le boulot, sinon ça marche pas, quoi. Sinon ça marche pas. Donc quand Honneth est dans ses travaux et un certain nombre d'autres chercheurs, notamment dans le centre de la sociologie du travail, évoquent cette question, c'est de ça dont qu'ils veulent parler de cette contradiction insupportable à double titre. C'est là où on en a le plus. Enfin, on en a besoin partout de justice démocratique. Mais enfin, on est dans la féodalité, quoi, dans l'entreprise, à cause de cette prépondérance du droit de propriété.
D'ailleurs, c'était un peu sur le l'ANI 2013, c'était un peu un point considéré comme une avancée par certains qui disaient, mais vous voyez, l'ANI 2013 prévoit que les salariés pourront être représentés au sein des conseils d'administration de certaines entreprises, et c'est une avancée, et les salariés pourront participer au projet de l'entreprise, etc. Et c'était quelque chose qui était considéré comme positif.
Oui, on donnait ça avec une contrepartie inverse qui était beaucoup plus conséquente. Oui, moi je pense que c'est bien que les salariés rentrent dans les conseils d'administration, mais il faudrait qu'ils puissent avoir des droits de veto sur ce nombre de questions, par exemple. Par exemple, sur la question des restructurations avec compression de personnel. Mais ça, bien sûr, c'est pas à l'ordre du jour. Quand vous imaginez que dans la loi qui se prépare ou qui sur l'économie sociale et solidaire, il y avait une disposition malheureuse, hein, un article qui prévoyait, qui demandait aux patrons, lorsqu'ils envisageaient de quitter l'entreprise, de la quitter, l'entreprise qui leur appartenait, de prévenir, je sais plus dans quel délai, de prévenir leurs salariés, c'était dans un délai de 2 ou 3 mois, pour que ceux-ci puissent notamment envisager la possibilité d'une reprise en société coopérative, le MEDEF, il est monté au créneau là-dessus, avec une violence incroyable. Il n'est pas question que simplement 3 mois avant, quoi, ou 2 mois avant. Donc cela démontre bien où est l'opposition, où est le conflit, quoi. On le sent bien au travers. Quand on se penche sur les organisations du travail et sur leurs conséquences en matière de santé et sur la question de la prévention, on sent bien la difficulté d'arriver à imposer quoi que ce soit sans un rapport de force significatif du côté des salariés, parce que les propriétaires des entreprises considèrent que l'organisation du travail, c'est leur prérogative, parce que l'outil de travail leur appartient, parce que le droit de propriété l'établit, et point barre, quoi, et qu'il n'y a pas, et ça c'est pas à discuter, et je pense que c'est là que ça se joue. Donc des marges de manœuvre pour que les salariés puissent décider ensemble, voire à terme puissent décider en coopération avec l'ensemble des citoyens, de la façon dont ils produisent ce qu'ils ont à produire. Parce que tout ça, c'est une question qu'interroge l'ensemble de la société. Que produisons-nous? Pourquoi le produisons-nous? Comment le produisons-nous? Parce que faire tomber malade des légions de salariés, c'est qui c'est qui est. Comme bien évidemment, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, c'est pas considéré comme des accidents du travail ou des maladies professionnelles, que c'est considéré comme des maladies. Point. C'est l'ensemble de la collectivité qui le prend à sa charge. C'est le budget de la sécurité sociale. D'où l'importance d'un combat qu'évoquera certainement Bernard la semaine prochaine, celui d'obtenir que soit qualifié en accident du travail tous ces accidents relevant de toutes ces pathologies, parce que quand c'est un accident du travail, c'est pas la même chose. C'est pas la collectivité qui paye. C'est les détenteurs du capital qui payent. C'est les propriétaires de l'outil de travail qui payent.
C'est vrai qu'ils n'ont pas intérêt à ce que la souffrance au travail soit considérée comme une maladie professionnelle. Et d'ailleurs, on voit que les maladies professionnelles, quand il y a une présomption, c'est bien des maladies qui sont liées à des gestes répétés. On est encore sur la souffrance au travail, mais qui est liée à l'utilisation du corps, en fait, du salarié, et l'incidence, en fait, du travail sur son corps. Et on n'est pas encore au point de considérer qu'effectivement l'incident sur la psychologie du salarié, ça puisse être considéré comme une maladie professionnelle.
Un travail qui ne soit pas physique puisse amener aussi à des maladies.
Voilà, tout à fait. Tout le monde, enfin, on a une propension, et de toute façon, le modèle dominant, la pensée dominante, et les médias qui vont avec, nous y poussent à considérer que si on tombe d'une échelle au travail, c'est un accident du travail. Mais si on sort d'un entretien d'évaluation en pétant les plombs, en envoyant chier tout le monde, et qu'on est accompagné chez soi par les pompiers, c'est pas un accident du travail. Mais c'est un accident du travail. Le code de la sécurité sociale le dit expressément. Un accident du travail est un accident qui survient au travail à l'occasion du travail. Si vous vous avoinez grave avec votre collègue de travail ou avec votre chef, au point de vous mettre dans un état qui vous fait cesser le travail, c'est un accident du travail. Mais on comprend pourquoi. Ça a un double effet, quoi. Ça a un double. C'est d'une double nécessité. Il y a la question de qui paye. Et il est logique, puisque les propriétaires de l'outil de travail ont la prétention d'avoir un droit régalien et inaliénable qui justifie la subordination, eh ben qu'ils en payent le prix, un minimum. Mais l'autre intérêt, c'est que pour le salarié, se retrouver, lorsque c'est une pathologie de cette nature, donc un burn-out, quelque chose qui ressemble, qui s'apparente à la dépression, donc quelque chose qui est du registre de la maladie mentale, être victime du travail, c'est pas la même chose que être en maladie. Être en maladie, ça veut dire ça vous retrouvez seul face à vous. Eh ben moi je suis tombé malade, moi je suis faible, moi je alors que donc c'est vous que ça remet en question. Être en accident de travail, c'est le travail que ça remet en question. L'effet n'est pas le même.
On va peut-être essayer de finir sur une note un peu positive. Que faut-il changer pour combattre la souffrance au travail et quels les moyens doivent être mis en œuvre pour essayer de l'éradiquer, en tout cas pour faire en sorte que ça change un petit peu. Compliqué hein, comme question.
Oui, alors moi, je vais pas. Bernard, la semaine prochaine, évoquera la panoplie d'outils dont on dispose actuellement pour faire un peu bouger les choses. J'essaierai plutôt de faire une réponse générale. Moi, je pense que ce par où il faut attraper le problème par les deux bouts. Faut que l'ensemble des travailleurs et l'ensemble de la société attrape le problème par les deux bouts. C'est-à-dire par la dimension macro, bien comprendre quelles sont les logiques qui amènent ces organisations du travail pathogènes à se mettre en place, mais ne pas considérer que ça suffit. Et venir par le côté micro, par en dessous, revendiquer, se battre pour avoir les moyens de refaire autorité sur son travail, pour avoir les moyens de faire un travail de qualité, refuser en permanence d'en passer par ces injonctions, même si c'est difficile. Et donc c'est un combat de longue haleine au quotidien. Il n'y a pas de s'il y avait une recette miracle, ça se saurait. Donc ça veut dire ne rien lâcher, quoi, ou en lâcher le moins possible. Veiller à défendre la dimension collective du travail, bien évidemment, et défendre la question de la qualité telle que la portent ceux qui font le boulot contre ceux qui le prescrivent. Parce qu'aujourd'hui, elles sont antinomiques. Les qualités telles que la défendent ceux qui organisent le travail et telles que la défendent ceux qui le font, elles sont antinomiques. Il faut pas céder là-dessus. Et dans le détail, il faut aller dans le détail. En n'acceptant pas... Et c'est un combat au quotidien et de longue haleine d'en passer par où les prescripteurs et les planificateurs actuels du travail nous demandent d'en passer. Et il faut mobiliser tous les outils dont on dispose pour contester cette, enfin pour défendre ce sans quoi il n'y a pas de possibilité de se construire au travail. Faire de la merde, c'est pas possible, ça rend dingue, ça rend malade. Donc, se construire au travail, ça veut dire pouvoir être fier de son boulot d'une certaine façon, avoir envie de s'y engager, et ça veut dire, oui, je tourne en rond sur cette idée, quoi. Ne pas se laisser déposséder de ce qui nous appartient. C'est nous qui faisons le travail, et il n'y a pas de raison, aucune raison, il y a toutes les raisons au contraire, pour qu'on soit dépossédé de cette autorité qu'on a sur notre travail. Parce qu'il n'y a que nous qui pouvons en parler. Quand je dis nous, c'est nous englobe ceux qui font le travail. Parce que, voilà. Hein. Et donc, vis-à-vis de ceux qui nous disent « Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. » Mais non. Les experts du travail, c'est les salariés eux-mêmes. Et c'est là-dessus, je pense, qu'ils doivent s'appuyer leur résistance contre ces organisations qui nous rendent dingues.
Et les moyens, ça peut passer, parce qu'il faut qu'à un moment, cette discussion entre salariés Et le patron, comment il faut déjà qu'il puisse s'engager, il faut qu'il y ait une table de discussion ou contradictoire. Et souvent, cette table, elle n'existe pas, du moins. À l'agenda, ces choses-là.
Ce qu'il faut d'abord, c'est que les salariés, entre eux, ils aient la possibilité, sans les patrons, sans les cadres, de discuter de leur travail. Ça, Bernard vous en parlera certainement. Il y a des dispositions dans le Code du travail pour ça, notamment qui ont été mises en place en 82 avec les lois Auroux. Ça, c'est, par exemple, voilà, c'est quelque chose sur lequel il faut se battre pour avoir la possibilité de délibérer sur le travail entre ces gens qui le font sans l'encadrement. Et quand, à un moment donné, ce processus de confrontation, d'élaboration arrive à maturation, alors là, on a la solidité, on a l'argumentation pour aller se cogner les patrons, quoi. Et là, généralement, on se les cogne. On a pu construire son propre point de vue. Mais ça ne vous est même pas donné, puisque on vous change, tout va très vite. Vous avez surtout pas le temps de réfléchir. Faut surtout pas.
Il y a la question du temps et la question des lieux. Enfin, on voit les lieux de convivialité qui disparaissent aussi. Il y a même plus de lieux où on peut se réunir.
Oui,
alors, il faudrait le faire en dehors du travail, si tant est qu'on ait le temps.
Ah non, il faut se battre pour avoir le droit de faire ça sur le lieu de travail. Mm-hmm. Et encore une fois, le code en donne la possibilité.
C'est vrai qu'on voit en plus que les entreprises qui intègrent en fait les normes de justice démocratique, comme les entreprises d'économie sociale solidaire, qui sont plus quand même sur ces créneaux et les scopes, c'est quand même les entreprises qui ont le plus et qu'on mieux résister à la crise, entre guillemets, quoi. Je veux dire, même c'est un modèle économique qui, du coup, est viable. Donc, on a tout intérêt, effectivement, à mettre en place ces modèles d'organisation du travail qui intègrent, en fait, la justice démocratique au sein de leur construction, quoi.
Et j'en profite, c'est un élément de réponse à la question, j'aurais dû y penser. Le modèle d'organisation d'entreprise est aussi déterminant. Et la SCOP, par exemple, en tout cas tel que je l'entends moi, c'est-à-dire une association entre des salariés à égalité de droit pour constituer un outil de travail, c'est un combat qui peut se mener aussi, d'obtenir, de faciliter, enfin de travailler au développement de ce type d'organisation juridique pour héberger des collectifs de travailleurs, et puis de se battre pour pouvoir en reprendre que des salariés puissent reprendre en scope un certain nombre de sociétés.
Merci pour cette intervention.
Merci Jean-Luc. Deux petites précisions. On a beaucoup parlé de la prochaine émission, donc on a souvent dit machinalement la semaine prochaine. C'est bien dans 15 jours en fait, le 20 février, il n'y a aucun problème. Que nos auditeurs ne soient pas déçus la semaine prochaine, même si je suis sûr que l'émission de la semaine prochaine est très bien aussi. Merci.
WTO, she's promised.